chers auditeurs, bonjour et bienvenue au Libre Journal des Historiens. Je reçois aujourd'hui Jean Monnerin, une fois n'est pas coutume, c'est un habitué de notre émission, avec qui nous allons évoquer dans un instant les massacres d'Oran de 1962, point d'histoire sur lequel il convient de revenir, puisque pendant des décennies, ces événements ont été complètement ignorés.
Occulés.
Et dans le contexte actuel des relations mémorielles, dirions-nous, entre la France et l'Algérie, c'est évidemment nécessaire de revenir sur ces questions. Auparavant, pendant quelques instants, je voudrais, à la faveur de cette émission, de ce Libre Journal des Historiens, rendre hommage à Marc Bloch, qui va entrer au Panthéon la semaine prochaine. Grand historien, bien sûr, mais aussi un patriote convaincu. Marc Bloch, pur produit de la méritocratie républicaine, brillant élève au lycée Louis le Grand, reçu à Normale supérieure, à l'agrégation d'histoire, qui ensuite a fait une très belle guerre de 14. Il est sergent au moment de la bataille de la Marne. Il va monter régulièrement en grade à la faveur des combats qu'il est amené à livrer jusqu'en 1918, date à laquelle il est promu capitaine. Et Marc Bloch va ensuite être un pionnier en matière de sciences historiques, puisqu'en 1929, avec Lucien Febvre, il va créer la revue des Annales, sous-titrée Économie, Société, Civilisation, qui impulsait un esprit nouveau dans la recherche historique, puisque on s'intéressait désormais non plus seulement à l'histoire nationale et à l'histoire de l'État, comme on l'avait fait au XIXe siècle, à l'époque où se constituait, entre guillemets, le roman national tant décrié aujourd'hui, mais il va s'intéresser aux différentes histoires des différents pays européens, aux relations qu'ils ont pu entretenir entre eux. Il s'est intéressé à l'histoire au-delà des frontières, et puis en se penchant sur l'histoire économique, sur l'histoire sociale, sur l'histoire des mentalités. Et dans ce domaine, il a fait œuvre de pionnier et nous a laissé quelques très grands livres. Je pense notamment aux caractères originaux de l'histoire rurale française, à la société féodale ou alors au roi thaumaturge. Mais nous reviendrons ultérieurement plus largement sur ces questions dans une émission prochaine de Radio Courtoisie. Sinon, Marc Bloch, en 1940, il est affecté à un état-major, il est capitaine à l'époque, et il va subir, comme tout le monde, la défaite écrasante que l'on sait, après quoi il va rédiger son essai intitulé « Une étrange défaite », qui sous forme d'un diagnostic impitoyable sur les faiblesses de la France, aussi bien politique que militaire, que morale, pour expliquer le désastre. Il va continuer sa carrière de professeur d'histoire, et ensuite en zone sud, notamment à Montpellier. Et puis, quand la zone sud est envahie en 1942, il va entrer dans la résistance et va se retrouver dans la résistance lyonnaise. C'est là qu'il sera arrêté en 1944 et il sera fusillé par les Allemands quelques semaines avant la libération. Alors, c'est un grand personnage qui entre ainsi au Panthéon, qui a fait honneur à la France et puis surtout honneur à la science historique dont il a été un serviteur toujours fidèle. Mais nous reviendrons sur cette question ultérieurement lors d'une prochaine émission pour approfondir certains des thèmes qu'il a développés. Aujourd'hui, Nous allons revenir, car nous l'avions déjà évoqué, cette question avec Jean Monneret, qui est notre spécialiste de l'histoire de la guerre d'Algérie, qui est l'autorité en ce domaine. Et nous allons revenir sur les événements d'Oran de 1962, qui ont été savamment occultés pendant des décennies, donc c'est seulement depuis une dizaine d'années seulement maintenant.
Une vingtaine d'années
qu'on a commencé à lever le voile sur cette tragédie qui était connue par les familles de ceux qui l'avaient connue, qui l'avaient subie, mais qui n'entrait pas du tout dans la lecture officielle de la guerre d'Algérie telle qu'elle a été transmise au cours des deux dernières générations. Alors Jean Monneret, d'abord, qu'en est-il de l'événement lui-même? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, comme vous l'aviez fait brillamment à propos du massacre de la rue d'Isly il y a quelques mois, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'ont été ces massacres d'Oran? Quelle est leur origine? Qui ont été les victimes? Quelles ont été les réactions face à l'événement, tant au niveau du pouvoir politique français? Pour remettre un petit peu en mémoire à nos auditeurs ce drame tout à fait affreux de la fin de l'Algérie française.
Alors il faut d'abord préciser qu'il s'agit, la date très exactement, est celle du 5 juillet 1962. Il est important d'en parler un petit peu, car le 5 juillet, c'est une date importante en Algérie. Je vais expliquer pourquoi. Mais une erreur est souvent commise qui consiste à dire que c'était le jour de l'indépendance de l'Algérie. Alors je dois préciser que non, ce n'est pas le 5 juillet, c'est le 3 juillet que l'Algérie est devenue indépendante, puisque il y avait eu le 2 un référendum et sur l'indépendance précisément. Et donc, tout s'étant déroulé sous la houlette du FLN, et naturellement, le vote pour l'indépendance avait été majoritaire. Je dirais même largement majoritaire. Et ça, c'était tout début juillet. Le 3, le gouvernement français prend acte du résultat du référendum et reconnaît donc que l'Algérie sera indépendante. Alors, qu'est-ce que c'est le 5 juillet, deux jours après? Eh bien, le 5 juillet est la date anniversaire de l'entrée de l'armée française dans Alger, dans la capitale de l'Algérie, le 5 juillet 1830. Bon. Alors donc, pour les gens du FLN, qui arrivent au pouvoir avec l'indépendance, il s'agissait, en quelque sorte, d'effacer cet épisode français, et la célébration de l'indépendance, la date qui avait été arrêtée pour la célébration de l'indépendance dans la rue, par des festivités, par des manifestations populaires, c'était donc le 5 juillet. Et je crois que je suis le seul à le dire, mais sans doute peut-être continuerai-je solitaire, mais enfin c'est très important de le dire. Dans l'univers musulman, le 5 juillet, c'est aussi la date de la victoire de Saladin sur les croisés.
À Hattin, 1190.
Voilà.
La bataille de Hattin, près du lac de Tibériade.
Alors on prononce comment
Hattin.
Hattin, c'est ça. Alors, ça doit être un peu différent. J'ai pas en tête la graphie arabe, donc je m'en tiendrai à ce que vous dites. Mais ceci est très connu. Sauf que Saladin, c'est une francisation du nom de l'individu qui s'appelait.
C'est un Kurde.
Salah Eddin.
Kurde à l'origine. Nous sommes là dans le Proche-Orient, lointain par rapport à l'Algérie.
Voilà. Mais c'est quelque chose qui est connu dans tout l'univers musulman. Et c'est les Algériens savaient très bien que le 5 juillet, ça correspond.
Comme était connue notre bataille de Poitiers de Charles Martel.
Voilà, quelque chose comme ça. Alors donc, ceci dit, donc c'est cette date du 5 qui avait été arrêtée. Il faut dire que pendant la guerre d'Algérie, après 1958, le FLN avait créé un GPR, c'est-à-dire Gouvernement Provisoire de la République Algérienne. Lequel gouvernement provisoire de la République algérienne avait choisi cette date du 5 juillet, avec tout ce qui va avec, car c'était le jour où il venait s'installer dans la capitale de l'Algérie pour prendre en main les affaires du pays. Il se trouve que à Oran, la situation était un petit peu différente. Pourquoi ? Parce que Oran avait présenté une différence par rapport à Alger concernant l'influence du FLN. Il y avait, dans le FLN, il y avait deux tendances très opposées et dont le conflit venait d'éclater dans les semaines précédentes, puisque je crois même que Ben Bella, alors je ne sais plus si c'était Ben Bella ou Boumediene, avait refusé de siéger jusqu'au bout dans une réunion du FLN, qui devait être une réunion du CNRA, quelque chose comme ça. Enfin bon, le monde entier savait qu'il y avait un conflit entre le gouvernement provisoire de la République algérienne et Boumediene et son allié Ben Bella, qui allait former ensuite le groupe de Tlemcen, puisque Ben Bella, franchissant la frontière du Maroc, s'était installé en Algérie à Tlemcen, pas dans la capitale, mais à Tlemcen, car précisément, il y avait de très forts conflits, un très fort conflit avec le gouvernement provisoire. Ceci a d'ailleurs duré pendant tout l'été, avec des allers-retours, des petites négociations, des conflits. Enfin, c'est une histoire qui pourrait rappeler peut-être des événements actuels au Moyen-Orient. Il y avait tous les deux jours quelque chose de différent. Mais finalement, ça s'est quand même terminé en septembre-octobre, c'est-à-dire à l'automne, par un conflit très important entre les troupes qui étaient restées fidèles au FLN, plutôt au GPRA, et les troupes de Boumediene, qui étaient des troupes très fortement organisées, militairement parlant, et qui avaient guère combattu l'armée française, puisqu'elles étaient à l'extérieur, stationnées les unes en Tunisie, les autres au Maroc, à la frontière marocaine. Et Boumediene avait préparé très tranquillement pendant les dernières années, les derniers mois particulièrement de la guerre d'Algérie, il avait tranquillement préparé la prise du pouvoir par les troupes qu'il commandait et qui étaient nombreuses, bien organisées, bien armées. Bon. C'est ce qui s'est passé en septembre. Donc j'ai évoqué la fin de ce conflit, mais nous étions le 5 juillet, en plein conflit intra-FLN, entre le gouvernement provisoire, d'un côté, qui était dirigé par un nommé Ben Hedda, qui avait l'appui des Kabyles. C'est une wilaya très importante, la Kabylie.
La wilaya 3, oui.
La wilaya 3. Et puis, alors, de l'autre côté, il y avait Boumediene, Ben Bella, qui eux aussi étaient très bien implantés, surtout d'ailleurs en Oranie. Qu'est-ce qui se passe alors le 5 juillet ? C'est qu'il semblerait que l'organisation FLN d'Oranie n'a pas lancé des appels particulièrement puissants pour mobiliser les masses. Ce qui peut s'expliquer très bien par le fait que le gouvernement local était tenu en main par des gens favorables à Boumediene, donc favorables à l'armée des frontières, favorables à Ben Bella, qui avait toujours été assez populaire dans ce secteur. Les armées répugnent généralement à appeler les foules à sortir de leur quartier pour toutes sortes de raisons, parce que quand les larges masses se mobilisent, ça peut créer du désordre et généralement les armées, pour toutes sortes de raisons, et ça n'a pas fait exception en la matière, l'armée de Boumédienne n'était pas très très favorable. Et l'organisation FLN locale, qui lui était inféodée, n'était pas non plus très favorable à ce qu'on fasse appel aux masses. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas. L'Oranie avait une très faible organisation politico-administrative. Et l'armée des frontières n'était pas encore arrivée à Oran. Vous voyez, ce qu'on appelait l'armée, c'était des milices locales qui s'étaient baptisées ensuite armées en se donnant des grades et tout ça, mais qui n'étaient pas véritablement. Et l'Oranie, tout le monde le sait, avait été très faiblarde au point de vue de la révolution algérienne.
Oui, par rapport à la Kabylie, aux Aurès, à la Warsonis. Et l'Est algérien en général avait été plus mobilisé dans la lutte pour l'indépendance.
Voilà. Alors, il y a eu quelques événements importants dans l'Oranie, mais la région d'Oran, la ville d'Oran, avait été extrêmement.
Et vous me le confirmez, Oran, c'était une ville à majorité européenne.
Oui.
Aussi. C'était une différence.
Alors, disons que le côté. En revanche. Il y avait une périphérie, comme on dit aujourd'hui. Il y avait tout un tas de quartiers périphériques, des quartiers musulmans, et un quartier aussi musulman à l'intérieur de la ville même d'Oran, que l'on appelait d'ailleurs la ville nouvelle. Mmh. Voilà. Donc, quand les manifestations de célébration du 5 juillet ont commencé, il faut reconnaître que, dans une certaine mesure, ça a échappé complètement à l'organisation du FLN, qui était très faible localement, et ça a échappé complètement aux troupes de Boumédienne, qui n'étaient pas encore entrées dans Oran, qui avaient des émissaires sur place, mais qui n'avaient pas encore pris. Et ceci a eu comme conséquence qu'on a pu, après, parfois, dire qu'il y avait eu des provocations organisées ou inspirées par Boumédienne. Je n'ai jamais été un adepte de cette analyse. Personnellement, ce que l'on a pu constater, c'est que le mot d'ordre du GPRA de célébrer le 5 juillet l'indépendance de l'Algérie avait eu son écho aussi à Oran. Parce que les gens, à cette époque-là, les gens déjà étaient informés par la radio. Et il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la masse musulmane, comme d'ailleurs les Français d'Algérie, était beaucoup informée par les radios françaises périphériques. Vous savez, alors, il y avait Radio Monte Carlo, qui était très écoutée, il y avait
Radio Luxembourg.
Lui, exactement. Et alors donc, et ces radios périphériques qui étaient très écoutées retransmettaient les mots d'ordre du GPRA, comme ce qui pour ces radios c'était de simples informations. Toujours est-il que dans les quartiers musulmans d'Oran, on avait enregistré l'idée que le 5, on allait descendre dans la rue et manifester. Il y a un auditeur qui se manifeste.
Dans sa biographie, un artiste français, mais notre auditeur ne nous signale pas de qui il s'agit, souligne qu'il a été marqué dans sa petite enfance à Oran par la vision de la sortie d'école des cadavres atrocement mutilés. Alors bon, c'est un témoignage indirect à propos des massacres que nous allons évoquer maintenant.
Il y a eu plusieurs témoignages nos très nombreux témoignages de gens. Une grande partie de ces témoignages avait été recueillie par Madame de Ternan, qui en a fait même 3 tomes, qui ont été publiés dans les années, si je ne me trompe pas, ça devait être dans les années 80 peut-être, me semble bien.
Donc l'affaire est très bien documentée.
Elle était assez bien documentée sur le plan témoignage. Et au point qu'il y en avait, je vous dis, 3 volumes, le tout sous le titre de L'agonie d'Oran. Ces ouvrages sont... Mais ils ont circulé. Ils ont circulé à l'époque. Mais ils ont surtout circulé dans le milieu français d'Algérie, dans le milieu pied-noir, et guère en dehors. Je ne me souviens pas que Madame de Ternan ait été... Elle est venue à Radio Courtoisie, ça je m'en souviens, puisque j'étais avec elle, c'était l'époque héroïque de Jean Ferré. Je ne me rappelle plus qui était celui qui nous avait invités. Peut-être Roger Saboureau, je ne me souviens plus très bien. En tout cas, pour en revenir à Oran, le Saint-Julier... Les masses musulmanes dans la périphérie, celles qui sont à l'intérieur d'Oran, ce qu'on appelle la ville nouvelle, eh bien sortent dans la rue,
sont mobilisées,
pour aller. Alors l'objectif, semble-t-il, c'était de se rendre à la place d'armes. Sauf erreur de ma part, la mairie est là. Il y a aussi le théâtre, alors des fois, dans ma tête, ça se confond un peu parfois. Ça fait plus de 60 ans, je ne suis pas moi-même oranais. Mais il me semble bien que la mairie est là, donc il y était question que des groupes du FLN descendent le drapeau français et hissent le drapeau qu'on appelle aujourd'hui le drapeau algérien, qui est celui du FLN. Il y aurait à dire d'ailleurs là-dessus, parce que ce n'était pas le FLN qui l'avait créé, ce drapeau, mais enfin, peu importe. Les gens arrivent, donc selon les témoignages, il y a de nombreux témoignages, il y avait des foules très importantes, considérables. Et alors la tragédie qui va se dérouler comporte une part de mystère. Parce que une fusillade a éclaté aux alentours justement de la place d'armes, pour les uns, près de la maison du colon pour les autres. Alors c'est assez proche pour ceux qui connaissent Oran, mais enfin, y a les endroits que l'on cite pour le déclenchement de cette fusillade ne sont pas toujours les mêmes. Alors, c'est très difficile, évidemment, 60 ans après, de... ce que je peux dire personnellement, ayant consulté les archives militaires, j'ai beaucoup potassé les archives militaires pendant des décennies, en fait, au service historique de la défense, les archives militaires font ressortir 2 choses. C'est que, 1, les manifestants étaient très souvent venus armés. Le service d'ordre algérien, c'est-à-dire la police algérienne, qui avait été organisée, nommée quelque temps auparavant, puisque nous étions dans la période qui suivait le cessez-le-feu, qui est du 19 mars.
Depuis les accords d'Évian.
L'accord d'Évian, et entre les accords d'Évian et l'indépendance de l'Algérie par référendum, il s'était écoulé 3 mois. Donc, dans cette période de 3 mois, il y avait une police algérienne qui avait été organisée. C'était loin d'être une réussite parce que on avait beaucoup recouru à ce qu'on appelait les ATO. ATO, ça voulait dire auxiliaire temporaire occasionnel. Et ces personnes, c'était un si vous voulez, c'était une pratique ancienne de la police française qui s'était transmise à la, cette police algérienne qui devait lui succéder. On embauchait des gens pour faire face aux tâches de police. Et, mais il n'était pas question d'en faire des fonctionnaires ou des choses comme ça, mais c'était des auxiliaires aux temporaires et occasionnels. On soulignait bien le fait que c'était temporaire, occasionnel. Petit détail qui n'en est pas un, ces gens étaient recrutés pour former la police algérienne, ils étaient recrutés avec l'accord du FLN. Autrement dit, c'était des gens qui avaient été désignés, bon, le FLN lui-même en fait, par l'organisation d'Oran du FLN. Et ils se sont révélés des gens extrêmement négatifs, justement, le 5 juillet, parce que loin de chercher à ramener l'ordre, ils étaient souvent eux-mêmes à l'origine des désordres et même des atrocités qui ont suivi. Voilà. Et car, que s'est-il passé à un moment, vers 11h30, une fusillade éclate. Elle oppose qui ? Eh bien, elle oppose... Alors, certains ont dit que du toit de la maison du colon, on aurait vu des gens... alors, dont certains portaient un uniforme, on aurait vu des gens qui étaient armés et qui auraient tiré sur la foule. Bon, alors, vous savez, quand vous êtes à une certaine distance... Vous regardez le sommet d'un immeuble, voir si des gens qui portent un uniforme sont des pieds noirs, des gens de l'Ouest, ou si ce sont des musulmans qui sont du FLN, c'est pour le moins difficile à discerner. D'autant plus que, si vous regardez les photos de l'époque, vous verrez que les gens du FLN de l'époque portaient des tenues bariolées, exactement comme les parachutistes français, comme les paras de Bijar. Et les mêmes casquettes également. Donc, il n'y a rien qui ressemblait davantage à un parachutiste français ou autre qu'un type du FLN de cette époque-là. J'insiste pas là-dessus, c'est une confusion. On ne sait pas qui a tiré le premier, qui a riposté, etc. Certains ont dit que c'était de ces fusillades, vous savez, qui éclatent parfois dans certaines troupes lorsqu'il y a de la nervosité. Bon. Tout ça reste mystérieux, indémontrable. Ce que l'on sait, c'est que on connaît... bien les dates, les moments, la façon...
La chronologie, le déroulement des événements.
Et surtout l'évacuation des commandos FLN, des commandos OAS, on sait très bien que ça a été organisé d'une certaine façon, qu'ils sont partis vers l'Espagne à un certain moment.
Qui étaient déjà partis à ce moment-là.
Étaient partis à ce moment-là. Alors, bon, certains, le général Katz... qui était le commandant suprême militaire à Oran, qui a écrit un livre après, un adversaire évidemment de l'OS, qui n'aimait pas beaucoup les pieds noirs, a cherché à raccrocher ses fusillades à l'OS. Bon. Mais il y a tellement de choses...
Et le 5 juillet, déjà, ces éléments OAS, ils avaient évacué Oran.
Voilà. Alors lui, il ne parle, et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'il ne parle même pas, il ne cite pas l'OAS. Il dit, mais des éléments... pas encore évacués, ou quelque chose comme ça. C'est assez curieux. Son livre, à mon avis, historiquement parlant, n'a aucune valeur. Il y a beaucoup de choses...
C'est un plaidoyer pro-domo où il justifie sa politique à Oran.
Pro-domo, oui, oui. On peut le dire. Et pour terminer sur ce point, les archives militaires, elles, parlent d'une chose assez différente, à savoir de manifestants armés, des manifestants donc pro-FLN armés, qui auraient ouvert le feu sur des sentinelles françaises, qui, sur la place d'armes, parce que je faisais allusion à un théâtre, il y a un théâtre là, or ce théâtre, dont les événements de l'époque ne fonctionnaient plus, c'était une base de l'armée française. Donc il y avait des sacs de sable, et également des sentinelles françaises, qui étaient là, qui montaient la garde, puisque c'était un bâtiment de l'armée française, occupé, réquisitionné par l'armée française, et donc ils l'occupaient. Mais il y avait des sentinelles françaises. Est-ce que quelqu'un dans la foule musulmane aura eu l'idée de tirer sur les sentinelles françaises pour marquer qu'on était vraiment indépendant, que sais-je, moi. On peut imaginer ce genre de choses. Mais enfin, l'historien n'est pas là pour imaginer. Les archives militaires disent un manifestant vêtu avec une robe verte. Robe, c'est la tenue que portent les musulmans les jours de fête, etc. Ça ressemble à une robe. C'est pas une robe, on appelle ça un camis, ou enfin, il y a différents noms. Enfin, en plus, verte, donc. Il y a une certaine logique à dire que c'était quelqu'un qui portait une robe verte et qui était armé. Car ce qu'il faut souligner, on ne le soulignera jamais assez, qu'il s'agisse des témoignages que nous avons, qu'il s'agisse des archives militaires, qu'il s'agisse de toutes les informations dont on dispose sur cette journée du 5 juillet, les manifestants, en grand nombre, un grand nombre d'entre eux étaient venus armés. Donc, et pas forcément, et pas uniquement avec des couteaux ou des armes blanches. Et certains étaient venus porteurs d'armes à feu.
Alors qu'il s'agissait simplement, théoriquement, d'une manifestation de satisfaction de l'indépendance, voilà. Liesse pour l'indépendance.
Alors, il est vrai que dans le milieu musulman, il est vrai qu'il est habituel quand on célèbre quelque chose, oui. Et particulièrement ce qui en l'espèce pouvait passer pour une victoire, il est vrai qu'il y a l'habitude de tirer des coups de feu
en l'air.
Alors, est-ce que des gens qui portaient des armes auraient tiré des coups de feu en l'air, que d'autres auraient cru imaginer qu'on leur tirait dessus. Comme ils étaient armés eux-mêmes, ils auraient riposté sur qui, sur quoi. Bon, c'est un mystère qui subsiste et qui subsistera certainement longtemps.
Il n'y aura jamais de réponse satisfaisante.
Alors, à partir de là, que se passe-t-il? Eh bien, les foules musulmanes sont effrayées, parce qu'on voit des gens qui tombent, d'autres qui arment leur mitraillette et qui se mettent à tirer n'importe comment, sur n'importe quoi. Et il y a un mouvement de panique, évidemment, et qui se déclenche. Et alors, c'est alors que, à ce moment-là, ces foules énervé, en plus il fait relativement chaud à l'époque, et donc ça ne porte pas toujours au calme. des groupes armés de gens, alors les uns du FLN, les autres de simples énergumènes, s'en prennent à tous les pieds noirs qu'ils croisent, qu'ils rencontrent, parce que ces manifestants qui viennent des quartiers musulmans sont rentrés dans le centre d'Oran. Parce que Alors, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu l'idée, l'arrière-pensée d'occuper le centre d'Oran pour montrer que désormais, eh bien, c'était un pays indépendant et plus du tout, que c'était plus du tout la France. Voilà. En tout cas, des morts sont tombés et un véritable, alors je ne sais pas si le mot pogrom s'applique, en tout cas des massacres de Français se déroulent et à une certaine échelle. Alors il est vrai aussi que le responsable suprême du FLN qui s'appelle Sibarti, qui n'est pas un militaire, mais enfin c'est le chef FLN d'Oran à l'époque, civil, se rapproche immédiatement du général Katz, et pour dire, tout ça nous échappe, il faut essayer de... Bon, ce que raconte le général aujourd'hui. Toujours est-il que ce que les archives militaires révèlent aussi, c'est que le général Katz ne veut pas entendre parler d'une intervention de l'armée française, et il confirme son ordre de maintenir les troupes consignées. Ce qui évidemment a une conséquence, c'est que l'armée française n'intervenant pas, les massacres vont se dérouler.
Peuvent continuer, oui.
Et ils vont se dérouler jusqu'en début d'après-midi. Alors selon les endroits, il y a des endroits où ça continuait même après. Bien entendu, je simplifie un peu le déroulement des événements parce qu'il faudrait entrer dans des explications qui ne sont pas un peu techniques. Par exemple, quand le général Katz dit que les troupes doivent rester consignées, il parle des troupes de troisième catégorie, c'est-à-dire la troupe, quoi, le contingent.
Oui.
Voilà. Ça ne concerne pas les forces de deuxième catégorie, c'est-à-dire la gendarmerie, et c'est la raison pour laquelle certaines personnes dans Oran ont vu, dans le centre, hein, à l'endroit dont je parlais, ont vu apparaître des barrages de gendarmes. Et il y a même une photo qui a beaucoup circulé, où on voit des véhicules bien blindés de la gendarmerie. Alors, cette photo est très certainement exacte. Il n'y a pas lieu de la mettre en doute d'une façon ou d'une autre. Mais il faut savoir aussi ce que les archives militaires nous enseignent également, c'est que ces véhicules blindés ne sont restés qu'une demi-heure. Après quoi... ils sont rentrés dans leur caserne. Mais les barrages de gendarmes se sont maintenus jusque dans l'après-midi, vers peut-être 17-18 heures. Ils se sont maintenus, mais c'était des barrages statiques.
Statiques.
Donc, il n'était pas question de courir après les émeutiers ou de chercher à retrouver les coupables. Bref. Et donc, c'est une affaire assez compliquée si on entre dans tous les détails. Je ne voudrais pas non plus surcharger le récit par trop de... Mais il est vrai qu'il y a eu des gendarmes qui... Alors, le général Katz s'est servi de ça après pour dire que ce n'était pas vrai qu'il avait fait intervenir les troupes. Il s'agissait des troupes de deuxième catégorie et... dont l'activité est demeurée statique. D'autant plus que à ce moment-là, dans l'après-midi, 14h, 14h30, les manifestants avaient reflué vers leur quartier d'origine. Tout au moins, ils avaient bien commencé à refluer, tout en se livrant à des exactions durant ce mouvement. Voilà. Voilà à peu près comment les choses se sont passées.
Donc on est sur la journée du 5 juillet, donc voilà. Sur une période relativement courte.
Assez courte, hein? Parce que ça a commencé vers 11h30,
oui.
Et le gros de la fusillade était quand même terminé à 14h30.
Oui.
Sauf, et ça a été relevé justement par certains témoins de Madame de Ternan dans l'agonie d'Oran, sauf à la gare où il y avait l'armée française avait maintenu un groupe de, comment dirais-je, vous savez, une gare, il faut que ça soit surveillé, organisé, oui. Ça ne peut pas être laissé à l'abandon, donc il y avait des militaires qui surveillaient les entrées, les sorties, et qui veillaient à ce que les trains soient bien... fonctionne, etc. Donc, il s'agissait des Marsouins, 8e RIMA. Et alors, il s'est passé la chose suivante, c'est que un certain nombre de gens, d'Européens, de pieds noirs, fuyaient l'intérieur de l'Oranie, parce que c'était, ça allait être l'indépendance, etc. Donc, ils ne tenaient pas à être là. Donc, ils prenaient le train et ils venaient à Oran. Dans le but, ensuite, c'était l'exode, dans le but, ensuite, de gagner la métropole. Ce qui était d'ailleurs un autre problème, il faudrait en parler. Mais ces personnes, des boulants à Oran, depuis l'intérieur de l'Oranie, par des trains qui avaient continué à fonctionner à peu près normalement, descendaient à la gare d'Oran pour se trouver en plein milieu de la manifestation musulmane. Donc, nombre d'entre eux ont été enlevés, à ce moment-là précisément, mais il y en avait déjà qui avaient été enlevés avant. Hein. Les enlèvements, on reviendra sur les chiffres après, les enlèvements se chiffrent par centaines d'Européens. Mais les gens du 8e RIMA, alors, ce n'est pas vous que je l'apprendrai, vous savez que le RIMA, c'est une troupe d'élite, quoi. Et c'est particulièrement ceux-là. Et donc, cette troupe d'élite n'est pas restée les deux pieds dans le même sabot, et ils sont carrément intervenus contre les gens armés du FLN, qui s'en prenaient à des Européens. Alors, ils sont sans doute pas tous été libérés, mais en tout cas, le RIMA a affronté le FLN devant la gare jusqu'à 16h ou 17h.
Il y a donc eu des combats dans lesquels l'armée française a été impliquée.
Mais alors, pas parce que le général Katz leur avait intimé de le faire, pas du tout. Ils l'ont fait de leur propre initiative, car les directives laissées intactes pour l'armée française, il y avait ordre qui avait été donné. Vous savez, quelque temps avant, le général de Gaulle avait dit, après l'indépendance, nous ne devons avoir aucune responsabilité dans le maintien de l'ordre. Donc, il n'était pas question que l'armée française, s'il y a des incidents entre les communautés, ça sera l'affaire des nouvelles autorités, avait dit le général. On trouve ça dans le livre de Perfit, notamment. Bon, alors, mais les militaires en question ont fait jouer la légitime défense, car les troupes françaises pouvaient réagir si elles étaient elles-mêmes attaquées. Et alors, en tout cas, c'est ce que le journal de marche et d'opération du 8e RIMA à la gare fait ressortir, c'est qu'ils ont considéré qu'ils étaient menacés. Alors, il est vrai que les gens du FLN avaient lancé des grenades sur les militaires de la gare. Alors, ils ont riposté.
Ils ont riposté, oui.
Voilà, mais ça n'avait rien à voir avec les ordres du général Katz.
Et puis, ils se sont portés au secours, peut-être aussi, des pieds noirs qui étaient visés par les manifestants.
Évidemment, non, ça faisait partie des... Mais comme j'ai dit, il n'est pas certain qu'ils aient pu libérer tous ceux qui avaient
été...
Certains, peut-être, oui, sûrement même.
Bien sûr. Et alors, ensuite, là, vous avez évoqué les enlèvements. Mais c'est dans la foulée de cette manifestation que des Européens sont enlevés en quantité.
Voilà. Alors, il y a ceux qui ont été assassinés dans la rue, dont on a retrouvé les corps. Alors là, vous savez, au bout de 60 ans, on a réussi quand même à faire des listes de gens. Alors, je n'affirmerai pas qu'on a pu retrouver...
Une comptabilité exacte.
Parfaitement exacte. Mais en ce qui concerne les disparus, c'est-à-dire les victimes d'enlèvement, bon, parce qu'il est évident que si on a retrouvé le cadavre d'une personne, on ne peut plus la considérer comme disparue. mais elle peut être comptabilisée comme personne enlevée. Alors, au risque d'attirer encore l'attention sur des choses un peu compliquées, il y a encore aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères une liste de personnes enlevées dans cette période, alors pas au rang, mais en Algérie, dans toute l'Algérie, il y a une liste de ces personnes, la plupart des Européens, l'immense majorité des Européens, il y a une liste au ministère des Affaires étrangères qui est de 3 800, je crois, personnes.
3 800 disparus, donc, durant cette séquence-là.
Non, permettez-moi de vous corriger, justement. C'est 3 800 personnes enlevées.
Enlevées.
Ou qui ont été considérées à un moment comme des personnes enlevées. Bon. Mais ne peuvent être considérées comme portées disparues que ceux dont, qui ont été enlevés, mais dont on n'a pas justement
retrouvé
la trace, ou tout au moins dont on sait pertinemment qu'ils font partie, que les familles ont déclaré avoir été victimes d'un enlèvement.
Nous avons un message de la radio.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Alors, vous nous parlez de 3800 personnes disparues.
Enlevées.
Mais enlevées sur l'ensemble de l'Algérie.
Sur l'ensemble de l'Algérie.
Pendant cette période-là.
Après le 19 mars.
Après le 19 mars, après les accords d'Évian.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Et donc, parce que ça a continué jusqu'à l'indépendance. Et après l'indépendance, il y a eu encore des enlèvements. Justement, le 5 juillet, il y a eu beaucoup d'enlèvements de pieds noirs qui ont été enlevés à Oran même.
Mais alors, c'est un phénomène qui a été surtout oranais quand même.
Non, il y a eu beaucoup d'enlèvements aussi à Alger, mais si vous voulez, plus étendu dans le temps. Là, c'est la journée du 5 juillet qui a vu des enlèvements massifs, parce que que faisaient les gens du FLN et les athéos dont j'ai parlé, etc. Ils arrêtaient certains Européens qui pensaient... C'était une forme de... Comment on appelle ça? Un ratissage. Quoi. Ils étaient en plein quartier européen. Il y avait encore des Européens assez nombreux à Oran. La population avait diminué, européenne avait diminué de moitié. Mais enfin, il y a quand même encore 100 000 Européens.
C'est beaucoup, oui.
Ce n'est pas rien. Et donc, tous les Européens qui pouvaient attraper ou croiser, ils les arrêtaient et ils les enlevaient. Certains étaient emmenés dans le quartier musulman de la ville nouvelle. Certains ont été emmenés au Petit Lac. Alors, il semble bien, selon les témoignages, selon les informations, selon les archives militaires, il semble bien que tous ceux qui ont été emmenés au Petit Lac n'en sont jamais revenus.
Ont été tués.
Mais on n'a pas retrouvé forcément les cadavres. C'est les familles nous ont dit, ils ne sont pas revenus. Et alors, il y a aussi des gens qui ont été enlevés. Alors, ceux qui ont été enlevés et emmenés en ville nouvelle, un certain nombre ont été libérés.
Ah, un certain nombre ont été libérés quand même.
On a quelques témoignages comme ça, de gens qui nous racontent qu'ils ont été enlevés, malmenés, etc. Mais ensuite relâchés. Il y en a. Il y en a eu. Il y a aussi le cas de gens qui ont été attrapés par le FLN, mais qui se sont enfuis quand même. Il y a eu des évasions. Et il y a eu aussi des gens que l'armée française, sans faire tout le travail qu'on aurait pu attendre d'elle, a quand même libéré certaines
personnes.
Et puis alors, il y a aussi la période qui a suivi le 5 juillet, en particulier la période vers la fin du mois de juillet, j'ai plus en tête la date, mais vers le 20, me semble-t-il, par là, Ben Bella quitte Tlemcen, il s'installe à Oran. Et quand il s'installe à Oran, il condamne les massacres du 5, il condamne les enlèvements, et alors il promet aux gens qui sont là, alors l'ambassade de France, le consulat, etc., quelques représentants, quelques personnalités pieds noirs, il promet qu'il fera relâcher. Bon. Alors, il y a eu effectivement, dans les jours qui ont suivi, des personnes qui avaient été enlevées le 5 juillet et qui ont été relâchées.
Oui.
Bon, alors, si on fait le compte, si vous voulez, est-ce que vous voulez que je vous parle du nombre, de la liste des victimes ?
Oui, oui, bien sûr, oui.
Cette liste que nous avions de gens enlevés sur Oran, comme la liste générale des Français enlevés pendant la guerre d'Algérie, et particulièrement après le 19 mars, cette liste devait être étudiée et éventuellement améliorer, travailler, puisque malgré tout, ça ne pouvait pas faire foi comme ça. C'était des gens qui étaient venus, qui avaient déclaré ceci, qui avaient déclaré cela, et ce n'était pas forcément exact. Pourquoi ? Eh bien parce que vous aviez par exemple, quand il s'agissait d'une femme, on la retrouvait avec deux noms. Son nom de jeune fille parfois,
oui.
Et puis avec la même personne citée une deuxième fois sous son nom d'épouse. Mmh. Bon, alors, donc il y avait un travail, si vous voulez, à faire de peignage de la liste. Alors, ce qui n'a pas du tout été fait à l'époque. Hein. Ce sont des choses que nous avons faites, nous, à la fin des années 80, surtout quand j'ai travaillé avec le général Fèvre. À partir de 92, on s'est mis à travailler sur ces listes, parce qu'il y avait énormément de choses qu'il fallait clarifier. Il y avait, parmi les enlevés, il y avait des gens qui étaient des militaires. Alors il fallait éviter de mélanger civils et militaires, parce qu'il est évident, il y a eu ensuite un général qui s'est occupé de ça récemment, le général Fournier, qui avait créé une association et qui a fait une liste des militaires portés disparus. Figurez-vous qu'à l'issue de la guerre d'Algérie, eh bien, l'armée, il n'y avait pas, pour l'administration française, il n'y avait pas de liste des militaires portés disparus, ce qui est absolument aberrant. Ça oscillait entre 500 et 1000.
Oui, ce n'est pas plus précis que ça.
Alors, ça manquait pour le moins de rigueur. Donc il a fallu commencer à distinguer toutes ces personnes qui avaient été signalées une fois, deux fois, sous le nom de jeune fille, sous le nom de mari, du mari. Enfin bon, il y avait un peignage, comme j'ai dit, à faire. Et puis les militaires, les civils, tout ça, ce n'était pas rien. Je me rappelle, tenez, le cas il y avait un garçon qu'on connaissait très bien. Moi, je suis de Maison Carrée. Et ce garçon était un athlète, il avait remporté des prix, même un prix européen, je crois, en matière de culturisme. Vous voyez ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais plus comment, par un nom anglais.
Bodybuilding.
Bodybuilding. Alors, à l'époque, nous appelions ça de culturisme. Mm-hmm. Il était très connu. Il était passé aux actualités partout, etc. Et il figurait sur une liste où il était écrit trois fois son nom, mais avec des orthographes différentes. Mmh. Vous voyez, une fois avec deux L, une fois avec des choses comme ça. Ah, et en réalité, le cas que je cite est exceptionnel, mais en réalité, il avait bien été enlevé, mais il s'en était sorti. Comment ? J'en sais rien. Mmh. Peut-être de par sa notoriété. Et en tout cas, ce qui s'est produit, c'est que nous, après, par la suite, on le connaissait, on l'avait. Moi, personnellement, non, mais des amis qui le connaissaient avaient communiqué avec lui. Il était retiré dans la région de Lyon. voyez. Donc, il y avait comme ça des erreurs, il y avait des choses qu'il fallait rectifier. Voilà. Bon, c'est tout le travail que nous avons fait, nous avons initié avec le général Fèvre. Mmh. Plus tard, s'est créé le groupe de recherche des Français disparus en Algérie, qui existe toujours, qui est présidé par une dame qui s'appelle Madame Colette Ducos-Ader, qui est venue quelquefois ici aussi à Radio Courtoisie, au moins une fois ou deux, et donc qui est présidente de cette organisation et qui dispose aujourd'hui, grâce aux travaux que nous avons faits pendant toutes ces années, qui dispose aujourd'hui d'une liste de personnes enlevées, portées, toujours portées, disparues,
oui,
en Algérie.
Mmh.
Et, qui est de l'ordre de 1700 et quelques, donc
1400.
Civils.
Civils, oui.
Il y a quelque chose comme 500 ou 600 militaires également, mmh, vous voyez, donc ça vous donne une idée du chiffre global.
D'accord. Bon.
Et puis, alors ce qui est curieux, c'est que...
Mais ça, c'est sur toute l'étendue de la guerre.
Toute l'étendue, mmh, oui, mais... Toute l'étendue de la guerre, mais jusqu'au 19 mars, c'est pratiquement...
C'est très peu.
Je ne dirais pas négligeable, mais enfin, c'est très peu.
Mmh,
et c'est à partir de... Alors justement, le GRFDA dont je parle, cette association dont je parle, a fait des courbes avec des colonnes comparatives, etc.,
oui,
qui permet de voir l'ampleur du phénomène après le 19 mars. De sorte que on peut se demander si ce n'était pas aussi une tactique du FLN pour effrayer les Européens,
c'est
les
ça, pour pratiquer un nettoyage ethnique.
C'est l'expression qui est née, je crois, au moment des événements dans les Balkans.
Dans les Balkans, oui, bien sûr.
Oui,
ouais.
Et je crois que c'est à peu près ça que ça désigne. Et je termine sur ce point, les chiffres. Il est évident que... Alors, ce qui a été malheureux concernant, notamment concernant le 5 juillet, la tragédie du 5 juillet, mais pas seulement, pas seulement le 5 juillet. Ce qui a été malheureux, c'est que très souvent, les gens ont confondu le chiffre des enlevés, qui n'était pas tout à fait le même que celui des enlevés portés disparus. Parce qu'il y en a qui s'en sont sortis, il y en a d'autres dont on a retrouvé le corps, que, objectivement, ce ne sont plus des disparus. Vous voyez. Alors tout ça nous a pris beaucoup de temps, et c'est en grande partie grâce aux efforts que nous avons pu mener, notamment grâce aux archives, aux différentes archives, pas seulement les archives militaires, parce que je reviens encore une fois sur les chiffres, il y avait aussi 500 cas au ministère des Affaires étrangères, il y avait aussi 500 ou 600 cas incertains. Alors, nous avions demandé, parce que du côté de l'université, du côté de l'intelligentsia, ces choses-là n'intéressaient pas. Et quand elles intéressaient tel ou tel historien s'occupant de l'Algérie, c'était généralement un anticolonialiste. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Et l'anticolonialiste, soit... négliger complètement cet événement, négliger complètement la tragédie dissimulée, j'avais appelé la tragédie dissimulée à une époque, soit donc on négligeait le genre, ce que disait le général Katt, quoi, au fond il ne s'est rien passé. Et soit alors, si vous voulez, je dirais chercher la petite bête. Une expression arabe comme ça qui a fait florès après. Chercher le poil sur l'œuf, vous voyez, quelque chose comme ça. Et alors, bon, le chiffre était faux, le chiffre ne correspondait à rien. Et le fait est que certains de nos compatriotes, n'ayant pas aucune idée de ce que c'est que la recherche historique, la science historique, se permettait parfois de citer des chiffres un peu extravagants, voire des chiffres qui augmentaient régulièrement.
Oui, et une inflation. Des chiffres.
Ce qui revenait à imiter le FLN, qui lui n'a pas cessé de dire qu'il y a eu 1 million de morts à la guerre d'Algérie. Après, il a dit 1 500 000. Enfin, je ne sais plus où ils en sont.
Oui, il y a des inflations victimaires comme ça qui.
Énormes.
Ils sont bien connus.
Et puis en Algérie, si vous contestez ça, ça peut même vous valoir quelques ennuis.
Ah, bah oui. Alors, pendant tout ce temps-là. L'armée française, elle est encore présente en Algérie. Elle part d'Algérie à quel moment
Plusieurs années après. Parce que
plusieurs années après, on a maintenu des bases pendant un certain temps.
Surtout à Merzel-Kébir et au Sahara.
Oui. Mais à l'époque, Bousfère.
Oui, voilà. Bousfère, c'était la ville natale du général Jouot.
Ah oui.
Je n'ose croire qu'on avait maintenu une garnison là-bas pour lui rendre hommage.
Non.
Mais alors, ce qu'il y a, c'est que à l'époque dont nous parlons, le Saint-Juillet, il y a encore beaucoup de soldats français dans beaucoup d'endroits. Et, par exemple, je me rappelle que moi, j'ai évoqué Maison Carrée. Maison Carrée était une énorme caserne qui avait d'ailleurs succédé à une énorme caserne turque avant 1830. Donc il y avait une énorme caserne où d'ailleurs beaucoup de pieds noirs persécutés ou effrayés ou menacés ont pu se réfugier après l'indépendance. Vous voyez ? Donc il y a des archives militaires aussi pour ça.
Ouais.
Et seulement, bon, il y avait un plan d'ensemble qui était prévu, qui a été négocié, et bon, alors les bases de l'armée française peu à peu disparaissaient, y compris d'ailleurs à Merzel-Kébir, mais ça a pris du temps parce que...
Plusieurs années à Merzel-Kébir, oui.
Merzel-Kébir en 1965, je crois.
C'est ça, oui.
Ça a été remis à... J'ai pas les dates.
Ça a été au moment du coup d'État de Boumediene, je crois, quand Boumediene a pris pour de bon le pouvoir.
C'est possible.
En 65, oui. Mais alors finalement, cette armée française qui était encore en nombre bien présente, elle est restée complètement passive, obéissant ainsi aux ordres qu'elle avait reçus.
À Oran, indiscutablement.
Ouais.
Avec l'exception que j'ai signalée
de la gare.
Du 8e RIMA des Marsouins, parce que on évalue à 18 000 soldats français ceux qui étaient présents à Oran.
À Oran même, 18 000, c'est considérable.
C'est énorme. Alors, le général Katz, qui se croit très finaud, dans son livre, il expliquait que contrairement à ce qu'on avait dit, il avait pas interdit à l'armée française d'intervenir, pas du tout, et que, tout au contraire, il citait plusieurs régiments qui étaient intervenus tout de suite.
Mmh.
Or, quand on vérifie après, les régiments en question étaient effectivement intervenus, mais à proximité de la caserne, ce qui correspondait exactement aux directives qui leur avaient été données, c'est-à-dire intervenir pour des raisons, disons, humanitaires, si vous voyez qu'il y a des gens qui sont en difficulté ou blessés ou que sais-je. Donc on va envoyer une équipe de militaires avec, mettons des brancards. Alors, il jouait là-dessus pour dire que l'armée française était tout de suite intervenue. Et puis il citait quelques régiments qui, effectivement, avaient envoyé des équipes. Mais ce n'était pas du tout une intervention militaire, c'était une intervention humanitaire.
C'est ça.
Vous comprenez ? C'est le strict minimum qu'on puisse attendre.
Pas d'intervention contre les manifestants qui étaient devenus les tueurs du FLN.
Absolument pas, d'autant que... on en avait parlé plusieurs fois, je crois, avec le général Fèvre. Ce que De Gaulle craignait, c'était que si l'armée française bougeait, la guerre d'Algérie reprenne. Ce qui peut se discuter, évidemment.
Alors, nous avons un message d'auditeur.
Alors.
Émission pointue et passionnante, merci. L'interlocuteur peut-il nous donner son sentiment sur l'impact de la nationalité française d'Algérie? Si la nationalité française entière avait été donnée à tous, la guerre aurait-elle été aussi puissante? Cette appellation aurait-elle suffi pour enrayer le mouvement FLN?
Oui, je vois à quoi fait allusion l'auditeur. C'est un auditeur.
Oui.
Bon. Mm-hmm. Oui, parce que. Oui,
c'est une auditrice.
Ah, pas. Voilà. Oui, bon. Voilà. Alors, avec nos excuses. Je vois que une certaine propagande anticoloniale a fait du dégât, y compris chez des gens qui ne sont pas forcément eux-mêmes anticoloniaux.
Mm-hmm.
Je vais prendre un exemple très simple. Il y a une radio que je ne citerai pas, mais qui est très écoutée, et un de ses animateurs qui est très, très populaire, très connu aussi, qui s'est mis un jour à parler, je ne sais trop pourquoi, de l'Algérie. Et il s'est mis à en parler en disant, mais vous comprenez, ça ne pouvait pas aller. Il reprenait quelques-uns de des participants à son émission, en disant, vous comprenez, ce n'est pas... ils n'avaient pas les mêmes droits. Alors, là encore, j'hésite à m'aventurer sur ce terrain parce que c'est d'une complexité extraordinaire.
Mm-hmm.
Mais, pour simplifier, car il le faut, tous les habitants de l'Algérie, jusqu'au référendum du 3 juillet, tous les habitants d'Algérie, musulmans ou pas musulmans, il y avait aussi les juifs qui étaient concernés, tous avaient la nationalité française. Voilà. Alors, ce qui était différent, c'est que la citoyenneté française ne s'exerçait pas de la même façon dans le cas des musulmans et dans le cas des non-musulmans. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que les musulmans avaient un statut qu'on appelait statut de droit local, c'est-à-dire un statut coranique. Et il faut appeler les choses comme elles sont. Par exemple, ils avaient, on cite souvent la polygamie, mais en réalité, la polygamie, c'était un peu un luxe dans les classes les plus aisées. Mais enfin, voilà, je ne suis pas affirmatif, hein, je ne veux pas être dogmatique. Mais il y a ça, il y a aussi les héritages. Entre musulmans, les héritages ne se font pas de la même façon qu'en droit civil français, le tout étant basé sur le code Napoléon, enfin, on va pas entrer dans les détails. Donc, une grande masse de musulmans avait un statut juridique, familial et autre. Il y avait certains droits aussi en matière de toutes choses qui sont... Ce serait exagéré de dire que c'était la charia, mais en fait c'était un statut de droit coranique.
Statut indigène. Oui.
Mais ce n'étaient pas tous les musulmans, parce que d'abord il y avait ceux qui auraient souhaité acquérir la pleine citoyenneté française pouvaient le faire, c'était relativement facile, il fallait s'adresser, j'entre vraiment dans les détails, il fallait s'adresser à une juridiction qui, ayant constaté la motivation...
Peut-être est-ce que je me trompe, mais un leader du FLN comme Ferhat Abbas, je crois qu'il était dans ce cas-là.
Exactement. C'était les gens qui étaient, alors plus tard, il y avait même eu deux collèges électoraux.
Voilà.
Il y avait celui des musulmans qui avaient le, qui était au deuxième collège, c'est-à-dire qui avait le statut de droit local. Et puis, il y avait le premier collège où, contrairement à ce qu'on dit, il n'y avait pas que des Européens, il y avait aussi des Européens et des musulmans qui avaient soit choisi de bénéficier de la pleine citoyenneté française, soit qu'ils l'avaient reçu, comme les Juifs d'ailleurs, par décret. C'est-à-dire qu'à l'issue de la, par exemple, à l'issue de la guerre, Première Guerre mondiale, de nombreux musulmans qui étaient anciens combattants, par décret, avaient accédé à la pleine citoyenneté française.
La pleine nationalité française.
Et plus tard, c'est eux qui se sont retrouvés dans le premier collège, avec les Européens. C'était le cas de Ferhat Abbas.
Voilà, ouais.
Et je suis persuadé, d'ailleurs, je ne veux pas être affirmatif, parce qu'il faudrait vérifier, peut-être, je pourrais peut-être me tromper, mais je suis presque sûr que c'était le cas aussi de Messali Hadj.
Messali Hadj, oui.
Donc, les gens qui avaient une entreprise, les gens qui étaient anciens combattants, les gens qui avaient des diplômes, etc., pouvaient, c'était de droit, puisqu'il y a eu un décret. Mais on savait bien qu'une masse considérable de musulmans n'aurait pas voulu, qui avait le statut de droit local, n'aurait pas voulu l'abandonner pour un statut de, comment dirais-je, de citoyen français, d'un statut occidental. Donc il y avait une opposition. Et les musulmans, les milieux nationalistes, le MTLD, le PPA, etc., disaient à ceux qui auraient été tentés de faire une telle démarche, vous serez des apostats. Donc beaucoup de musulmans...
Oui, donc il y avait une opposition religieuse à une normalisation dans le sens du droit français.
Voilà. Alors donc, mais pour ce qui est de la nationalité, c'était la nationalité française. Les musulmans algériens n'étaient pas des apatrides ou quelque chose comme comme certains.
Bien sûr, aujourd'hui.
Ouais. Mais en revanche, ça crée évidemment des frustrations, des surenchères, comme vous pouvez l'imaginer facilement. Et il y a eu aussi, attendez voir, le... Oui, alors, donc, tout ça, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a eu encore, puisqu'il y avait encore des musulmans qui avaient participé à la guerre, et donc, ça s'est... accru encore le nombre de ceux qui étaient dans le premier collège, si bien que d'ailleurs quelqu'un comme Ferhat Abbas n'était même pas contre la suppression des deux collèges. Il disait, vu la démographie, il y aura finalement plus de musulmans dans le premier collège que dans le second. Ça vous donne une idée.
Oui, bien sûr, oui. Alors. Alors, bonjour monsieur, félicitations pour cette émission où les problèmes concernant la citoyenneté des musulmans en Algérie n'étaient-ils pas la polygamie ? Le principal problème concernant la citoyenneté, est-ce que c'était pas la polygamie ?
Non, je crois pas, parce que il est sûr que lorsqu'on parlait avec des Européens, par exemple, pour dire qu'est-ce que c'est ce statut de droit local, ils peuvent avoir plusieurs femmes musulmans.
Oui.
C'est un fait que ce n'était pas condamné, parce qu'il y avait aussi des tribunaux de droit musulman.
Oui, oui.
Mon beau-père était avocat, je peux vous dire qu'il était européen, il plaidait parfois dans les tribunaux civils ou pénaux, tribunal pénal, tribunal civil, donc de droit civil, de droit français. Et j'ai peut-être tort de dire de droit français, puisque c'était ça va de soi, puisque c'était des départements français. Mais il plaidait aussi parfois, lorsque ses clients étaient des musulmans et qu'ils avaient le statut coranique, il plaidait aussi devant les tribunaux musulmans. Les choses se passaient comme ça. Et il y avait une possibilité, parfois, de passer dans le premier collège. Comme je le disais, Ferhat Abbas était persuadé que le premier collège deviendrait un premier collège musulman. Mais tout ceci...
Oui, est... Ferre à tabac, ce qu'il disait lui-même, que dans l'histoire, il n'avait pas retrouvé l'Algérie en tant que... État ou peuple constitué.
Oui.
C'est intéressant
il
de le.
Qu'il avait cherché la nation algérienne.
Voilà, c'est ça. C'est intéressant de le rappeler.
Bien sûr.
Dans...
Je voudrais, si comme on aborde la dernière partie.
Oui.
Je voudrais dire que nous avons marqué des points ces dernières années parce que il est vrai, comme vous l'avez rappelé, que pendant très longtemps tout ceci était occulté.
Ah, complètement. Oui.
Et on a vu des livres, de bons livres parfois, ayant un bon succès sur la guerre d'Algérie, qui
faisaient l'impasse sur
qui n'avaient pas entendu parler de. Il y a même eu des films documentaires sur la guerre d'Algérie qui s'arrêtaient. Ils arrêtaient le 1er ou le 2 juillet, vous voyez. On ne savait pas ce qui s'était passé après. Parce que pour beaucoup de gens, c'est assez frappant que vous m'avez dit vous-même à plusieurs reprises, étiez lié au milieu français d'Algérie, directement ou indirectement, vous n'aviez déjà...
On a découvert très tard justement cet épisode-là.
Voilà. Alors, il y a une chose qui j'attire l'attention des gens. Je ne voudrais pas faire de la. Je vais faire un peu de publicité pour deux choses. Notre État, par l'intermédiaire du ministère de la Défense. Si on va sur le site, il y a une rubrique qui s'appelle Mémoire des hommes. Et c'est une rubrique qui l'ambition de retracer les derniers conflits, les conflits modernes. Il est question de la guerre d'Algérie, il est question également du 5 juillet. Alors, je dois dire que...
Ce qui est relativement nouveau, ça.
C'est relativement nouveau, et il se trouve que les choses sont présentées... Alors, on ne cite pas de chiffres, malgré tout le travail que nous avons fait, et pour présenter des chiffres sérieux, il n'est pas question des chiffres des civils européens, mais néanmoins, le massacre avec ses atrocités est bien signalé. Il s'agit d'une simple page, hein, ce n'est pas un article consistant. Il n'est pas indiqué que les manifestants étaient armés, mais il est indiqué quand même que beaucoup d'Européens ont été lynchés, capturés, mutilés, exécutés sommairement, etc., etc. Il est question aussi des victimes qui ont été jetées, tuées et jetées dans le petit lac. J'ai fait allusion tout à l'heure. Évidemment, tout ça a contribué à amplifier le départ des Européens. Le Mémoire des Hommes dit que le bilan de cette journée particulièrement lourd n'a jamais pu être établi avec certitude. Alors là, ils sont un peu en retard parce que nous l'avons établi. Et avec... pas une certitude à 200%, évidemment, mais enfin, quand même, avec une liste des disparus, même des morts en partie, qui n'est pas que partielle, comme ils le disent, mais qui est quand même très, 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 très solide. Et en tout cas, on ne craint pas la concurrence. Alors, leurs proches des disparus ont œuvré depuis 60 ans pour que ne soient pas oubliées les victimes civil de la tragédie du 5 juillet. Ben, c'est pas trop mal par rapport au silence.
Oui, c'est un progrès par rapport effectivement au silence qui a prévalu pendant pratiquement six décennies.
Oui, comme vous dites, très bien. Alors donc, je voulais dire aussi que Monsieur Macron.
Oui.
Dont je ne suis pas
un
fanatique partisan, a réuni aussi en 2022, ça remonte à quelques années déjà, il avait réuni l'ensemble, je crois, des organisations pieds-noirs, en tout cas presque toutes avaient répondu à son appel, Et je me souviens qu'il avait dit, il avait parlé du 26 mars, mais il avait aussi parlé du massacre.
Alors,
du
le 26 mars, je le rappelle, c'est le massacre de la rue d'Islay, le 26 mars 62, hein, dont nous avons parlé il y a quelques mois.
Où malheureusement, l'armée française était intervenue, là, cette fois-ci, faisant de... c'est tout à fait différent, mais enfin, on en a parlé. Alors, Emmanuel Macron avait déclaré, le massacre du 5 juillet 1962 au Rang, qui toucha des centaines d'Européens. Alors, il dit essentiellement des Français, mais il veut dire par là essentiellement des Européens. Parce que, évidemment, les musulmans de droit coranique, théoriquement, n'étaient plus Français, puisque l'Algérie était indépendante. Mais je veux dire que si M. Macron a prononcé cette parole, justement, qui marque un progrès par rapport à tout ce qu'on a dû subir
au silence officiel pendant longtemps.
Voilà. C'est parce que, justement, c'est pas parce que c'est un effet de sa bonté, mais c'est parce que nous nous sommes battus pendant des années, c'est parce que nous n'avons pas baissé la tête. Alors, je parle pas de moi spécialement, mais il y a l'association dont j'ai parlé, le groupe de recherche des Français disparus en Algérie. Puis-je donner aussi un site internet où on peut avoir la liste complète avec des cartes, etc. C'est un site internet qui s'appelle grainesdemémoire.org. Grainesdemémoire.org. Ouais. Et si on va là-dessus, il y a tout un montage informatique avec des cartes.
Il y a effectivement tout un travail qui a été réalisé pendant très longtemps pour aboutir justement à faire émerger cette vérité concernant ces événements d'Oran de 1962. Alors, dans le contexte actuel de la fameuse guerre mémorielle qui sépare ou qui oppose la France et l'Algérie, c'est évidemment important de revenir sur le sujet. Il y a eu durant cette période, de fait, est-ce que c'était le résultat d'une volonté politique? C'est bien difficile de le dire, mais il y a eu de fait une volonté de nettoyage ethnique pour pousser les pieds noirs qui étaient toujours en Algérie à partir. Certains avaient déjà commencé à le faire, d'ailleurs, en quantité, mais dans une ville, Oran, où il y avait une majorité de population européenne encore à l'époque.
Donc, ça amplifiait l'exode.
Voilà. Donc ce travail d'histoire, évidemment, il était absolument nécessaire. Et mon cher Jean, vous l'avez accompli avec beaucoup de persévérance et avec au bout finalement des résultats.
Je n'étais pas seul.
Bien sûr.
Vous avez... Il y a eu quelques universitaires.
Oui.
L'université française est loin d'être acquise à ce point de vue que je viens d'exposer.
Oui,
mais nous avons quand même des universitaires qui nous ont appuyés.
Oui, il y a eu une évolution sensible sur ce
terrain-là. Qui sont bien rendus compte qu'on était des gens qui travaillions sérieusement.
Vous avez évoqué tout à l'heure la figure du général Fèvre. C'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage.
Et oui.
J'ai eu d'ailleurs l'honneur de servir sous ses ordres et c'est un grand monsieur qui a apporté énormément à l'histoire de la guerre d'Algérie. Hein, et notamment, il était le spécialiste de la question des harkis.
Oui.
Et il a fait de l'histoire et il s'est engagé au profit et pour l'intérêt des populations concernées qui avaient subi le sort que l'on sait à l'issue de la guerre d'Algérie.
Donc, grande injustice.
Je tiens, nous l'avons invité d'ailleurs dans le passé, nous l'avons invité à plusieurs reprises à cette émission. Il est malheureusement disparu aujourd'hui, mais je tiens particulièrement à lui rendre un hommage appuyé.
Ce qui est un peu moins connu, c'est qu'il a beaucoup écrit aussi sur la guerre d'Algérie, la guerre des frontières, la bataille des frontières. Il a beaucoup écrit là-dessus aussi.
Oui, il a une œuvre considérable et également il a travaillé sur le général Ely également.
Oui, oui.
Il a réalisé un travail tout à fait considérable. Alors, nous avons un message. La pleine citoyenneté française était accessible depuis les décrets Crémieux de 1870 qui l'accordaient aux Juifs et aux musulmans. Sur simple preuve de leur présence sur le sol algérien depuis plusieurs années. Mais il fallait présenter la demande non seulement à l'administration française, mais aussi à un cadi, juge islamique, ce qui fait que très peu ont fait cette démarche. Cet obstacle était donc lié à l'islam et à l'opposition entre l'islam et la loi française.
Oui, oui. Je dois dire que je crois que cet auditeur a raison, mais je crois que ça ne concernait pas les Juifs. Les Juifs n'avaient pas à aller voir le cadi ou quoi
non,
que ce soit.
Non. C'était, il y a la confusion avec le décret Crémieux
voilà,
de 70.
Le décret Crémieux avait citoyennisé, si j'ose dire, les Juifs globalement.
Globalement,
sans qu'ils aient à faire un choix.
Ah ouais. Alors, je crois que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci infiniment, Jean Monneret. Je rappelle vos ouvrages, hein, notamment une grande synthèse sur la fin des dernières années de la guerre d'Algérie.
Oui, la phase finale de la guerre.
La phase finale de la guerre d'Algérie, c'est votre gros travail. De synthèse sur cette période, puis vous avez commis également divers autres ouvrages plus spécialisés
dont,
sur dont des
un,
points
dont
particuliers.
Un sur le 5 juillet
à Oran. Dont un sur le 5 juillet à Oran. Un épisode, en tout cas une séquence que vous avez ramenée avec d'autres à la lumière, et en cela vous avez bien mérité de la recherche historique. Merci Jean Monnet et Jean Monneret, pardon.
Ah oui, parce que je ne suis pas d'accord avec Jean Monnet.
et à très bientôt.
Voilà. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Historiens dirigé par Philippe Conrad, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 17 juin 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.